votre émission Histoire et Mémoire sur Radio Grand Ciel. Alors aujourd'hui, c'est la dernière émission de la saison et nous allons parler d'écho. Voilà, un petit sujet avant l'été pour ceux qui aimeraient entamer des grands travaux dans leur maison. Je suis avec Raphaël Huchin, archéologue et spécialiste des peintures murales au sein de la direction de l'archéologie de la ville de Chartres, bien sûr. Alors nous avions déjà conversé avec Raphaël, hein, souvenez-vous, lors d'une précédente émission. Raphaël nous avait expliqué les méthodes de travail sur le terrain et en laboratoire et toute la minutie qui était nécessaire pour reconstituer les puzzles géants que sont les fresques romaines. Je vous invite donc à réécouter cette émission du 13 février dernier si vous l'aviez manqué. Alors aujourd'hui, avec Raphaël, nous allons redécouvrir l'histoire de nos ancêtres gallo-romains à travers ces décorations murales, à savoir ces fragments de peinture retrouvés lors des fouilles archéologiques. Bonjour Raphaël.
Bonjour Julia.
Alors en parallèle de l'émission, chers auditeurs, sachez aussi que vous pourrez découvrir en images ces fameux décors dans la revue Archéo numéro 27, qui sera donc consacrée à la thématique des fresques antiques à Chartres. Raphaël, pour commencer l'émission et pour bien comprendre de quoi nous parlons aujourd'hui, pouvez-vous nous rappeler qu'est-ce qu'une fresque romaine ?
À l'époque romaine, les peintres utilisent la technique de la fresque, c'est-à-dire qu'ils peignent les décors sur un enduit de sable et de chaux encore frais, qui en séchant va fixer les couleurs. Si ce procédé a été bien réalisé, les décors nous parviennent alors près de 2000 ans plus tard avec la même intensité, le même éclat que lors de leur réalisation.
Raphaël, pour mémoire, pouvez-vous nous rappeler combien de sites archéologiques du coup ont livré ces fameux vestiges de peinture murale antique à Chartres ?
Les fragments de peinture antique ont été découverts sur presque toutes les opérations archéologiques menées à Chartres. Alors parfois, il s'agit uniquement de quelques fragments isolés, mais sur certains sites, nous avons récolté des quantités considérables de fragments qui permettent de reconstituer plus ou moins partiellement les décors antiques. Alors, les découvertes les plus importantes ont eu lieu autour de la place des Éparts, lors de la construction de la Galerie de France dans les années 80, puis lors de des fouilles précédant la construction du parking souterrain en 2004. Il y en a également énormément le long du boulevard Chasles, notamment sur le site du cinéma Les Enfants du Paradis, et également sous le parking souterrain. Rue Casanova, en 2013, sous l'actuel bâtiment du Pôle emploi, nous avons également découvert un nombre considérable de fragments. Il y en a également dans le quartier des Grandes Filles Dieu, y compris dans l'enceinte de l'Institut Notre-Dame, sur le site de l'ancienne piscine boulevard de la Courtille, et enfin même à l'extérieur de la ville romaine, comme sur l'emprise de la zone d'activité du jardin d'entreprise à Géninville, ou à proximité du lycée Jean de Bosse dans le quartier de Rochèvre.
Du coup, on retrouve énormément de peintures murales de cette époque à Chartres. Est-ce qu'on sait pourquoi ? Parce que là, j'imagine dans ma tête une riche cité avec des très belles demeures toutes décorées, en fait.
Alors, il y a trois raisons principales pour expliquer ce nombre important de découvertes. Tout d'abord, Autricum, l'antique Chartres, est la capitale de la cité des Carnutes, un peuple gaulois majeur, et la ville, à cette époque, est une des plus grandes de la partie nord de la Gaule.
D'accord.
Ensuite, dans les années 80, de nombreuses fouilles archéologiques ont eu lieu dans les secteurs centraux de la ville antique, notamment Place des Éparts et le long des boulevards Chasles. Et ces fouilles ont révélé des zones d'habitat aisés et parfois des domus richement décorés.
Les grandes maisons carrées avec un jardin,
tout à fait.
Imaginez.
Et enfin, les décors peints ne sont pas uniquement réservés aux riches demeures. Il y en a aussi dans les habitats plus modestes, dans les boutiques et sur les monuments publics. Donc en fait, les fresques sont donc présentes partout dans la ville romaine, avec des qualités de réalisation et des complexités de décors différentes selon la nature des bâtiments décorés et selon la place sociale de leurs commanditaires. En fait, on est donc susceptible d'en mettre à jour dans tous les secteurs de la ville, y compris sur la rive est de l'Eure, qui semble pourtant avoir une vocation plus artisanale à l'époque romaine.
La rive est, c'est le fameux quartier des artisans hein, dont on avait déjà parlé avec Jérémy Viré.
Et c'est le quartier des Grandes Filles Dieu.
Voilà. À l'émission précédente. En tout cas, merci pour ce panorama, parce qu'on n'imagine pas autant de décors présents dans toutes sortes d'habitats. Mais à l'heure actuelle, est-ce que vous avez pu réaliser des reconstitutions de ces décors pour tous ces sites ?
Alors, pas intégralement, ce travail est en cours. Pour cela, nous avons mis en place une équipe de recherche pluridisciplinaire soutenue par le service régional de l'archéologie, qui a pour objectif d'étudier et de publier l'ensemble des décors antiques de Chartres d'ici une petite dizaine d'années.
À moyen terme, comme on dit.
Voilà, à moyen terme. Cette équipe est constituée des archéologues du Centre d'études des peintures murales romaines de Soissons, de spécialistes de l'École normale supérieure de Paris, d'universitaires de Toulouse, Bordeaux, Lille, et d'étudiants en archéologie. Ce projet, nous l'avons initié depuis 2017. Alors, à l'heure actuelle, nous avons des restitutions plus ou moins complètes pour une petite vingtaine de décors et beaucoup de petits ensembles isolés. Alors certaines de ces restitutions datent des années 80-90, avec les découvertes importantes de la place des Éparts. Et puis surtout, ces dernières années, de nombreuses études ont été menées sur les décors découverts dernièrement en place des Éparts, sur le site du cinéma et sur le site de la rue Casanova. Mais il y a encore de nombreux décors totalement inédits qui restent à étudier.
Donc finalement, les 10 ans seront bien occupés.
10 ans, voire peut-être même plus.
Et ce sont ces décors les plus marquants que vous allez nous présenter aujourd'hui tout au long de l'émission. Mais lesquels allez-vous plus spécifiquement décrire aujourd'hui?
Je vous propose de découvrir d'abord les deux grands styles de décors romains. Il y a ceux très colorés et à l'inverse, ceux à fond blanc. Ensuite, nous verrons un peu plus en détail quelques représentations de personnages ou d'animaux présents sous les décors chartrains. En fait, on a la chance d'avoir une très très grande variété de décors.
Alors, c'est ce qu'on va découvrir tout au long de l'émission. On va se plonger dans ces décors antiques d'Autricum. Mais je vous propose avant une petite pause musicale et on se retrouve juste après avec Raphaël Luchin donc, pour évoquer notre histoire à travers ces peintures gallo-romaines.
I had a dream to wash myself. This great affliction. So hard to say, I get tongue-tied, speak without conviction. All the weight of my worries and the fear that surrounds me, it bears on you too. How can I stand here as a man, place all the blame into your hands, leave it with you? I've been lost, lost in the fire of love. I've been lost, lost in the fire of love. You felt the heat of the sunshine before I met you. Now I reached inside, pull your heart out, and left you in the shadow. All the weight of my worries and the fear that surrounds me, it bears on you too. I've been lost, lost in the fire of love. I've been lost, lost, lost in the fire of love.
From the days I couldn't face you sober, to the times that I would rage when you would tip me over. We was always on the edge of never ending, but hands kept on clenching, this lifestyle's descending. Why you pretending I was pulling down the bricks? I was young and you were sick, cause at the time I drained the life from everything that ever lived. Menacing the devil in me, fire straight from out the pit. But I don't blame myself, now I see you.
I've been lost, lost in the fire of love. Lost, lost in the fire of love.
Reprenons notre émission Histoire et Mémoire, consacrée aujourd'hui aux fresques réalisées par nos ancêtres gallo-romains à Chartres. Alors je suis avec Raphaël Luchin, spécialiste de ce sujet au sein de la direction de l'archéologie de la ville de Chartres. Alors Raphaël, vous vouliez nous plonger au cœur des domus antiques et nous présenter deux types de décorations. Vous aviez évoqué celles qui sont très colorées, alors qu'en est-il ?
Quand on évoque les fresques romaines, les premières images qui nous viennent à la tête, généralement, sont les magnifiques peintures de Pompéi, très colorées, souvent avec un fond rouge vif. Donc on les connaît par les manuels scolaires ou par les nombreux reportages télévisés. À Pompéi, en Gaule et à Chartres, de nombreux décors se composent de grands panneaux colorés sur lesquels sont ajoutés par la suite des décors simulant souvent des architectures. Donc le cas le plus fréquent consiste en une alternance de panneaux rouges et noirs. Donc à Chartres, c'est le cas sur de nombreux décors. Donc on en a rue Casanova, place des Éparts, place de la République, sur le site de l'ancienne piscine de la Courtille, ou même à Gélinville. En fait, ce décor, c'est une mode très courante en Gaule du 1er au 3e siècle après Jésus-Christ. Certains décors plus rares peuvent présenter des grands aplats de couleur jaune, donc on en a un découvert rue du Grand Faubourg, parfois vert, donc nous avons des décors champêtres sur deux ensembles à la place des Éparts, et plus rarement de bleu, et le bleu, on n'en a pas pour l'instant à Chartres. Donc la palette chromatique des peintres gallo-romains était très large, avec de nombreuses nuances pour toutes les couleurs de base.
Et comment les peintres de l'époque antique utilisaient toutes ces nuances du coup? Parce qu'on voit que le panel est large.
Alors, les couleurs de base, à savoir le rouge, le jaune, le noir, le vert et le blanc, étaient surtout utilisées pour peindre les fonds et les grands aplats, les grands compartiments des décors. L'utilisation des couleurs plus difficiles à obtenir, comme le bleu, l'orange ou le violet, était plutôt réservée pour la réalisation des motifs décoratifs, comme des fleurs, des végétaux, des fruits, ou pour la représentation d'éléments d'architecture, donc c'est-à-dire des colonnes, des frontons, des caissons, des pilastres. Les nuances de bleu, de rose, de crème ou de marron permettaient de reproduire les mouvements des drapés, des vêtements ou de la carnation humaine. Cette gamme étendue de couleurs donnait aux peintres de multiples possibilités pour la représentation des effets de relief des architectures, comme les colonnes cannées ou torsadées, et pour tous les jeux de lumière, notamment les ombres et les reflets.
Alors du coup, quand j'entends décor, imitation d'architecture, ombre et reflet, on est vraiment dans l'illusion, le trompe-l'œil.
Tout à fait, la peinture romaine, c'est réellement l'art de l'illusion. La peinture permet d'imiter des matières ou des roches décoratives, comme le marbre. Surtout, la technique des peintres antiques leur permettait de donner des effets de profondeur au décor, avec des premiers et seconds plans très réalistes. Le décor découvert sous le bâtiment actuel du Pôle emploi offre ainsi des architectures fictives et des guirlandes végétales très travaillées qui ressortent au premier plan devant un fond rouge vif. Alors j'ouvre une petite parenthèse à ce sujet. Une équipe française a découvert dernièrement à Pompéi la preuve matérielle de l'existence d'une connaissance codifiée de la perspective chez certains peintres antiques. En fait, parmi les outils d'un peintre se trouvait une règle graduée avec une grille de perspective assez similaire à celle représentée à partir de la Renaissance, quand les principes mathématiques de la perspective seront établis au début du XVe siècle.
D'accord, donc oui, on imagine bien une belle peinture hein, avec des reliefs, des seconds et premiers plans, des perspectives. On n'est pas du tout dans une peinture égyptienne très
non,
à plat.
C'est hein, pas
on est vraiment, on n'est pas statique. Et Raphaël, vous aviez évoqué là tout de suite un décor imitant le marbre.
Oui, alors de nombreux décors chartrains imitent des plaquages de marbre. Donc ces motifs se trouvent souvent en partie basse de paroi. On en a deux sur le site du cinéma, plusieurs places des Éparts et d'autres restent à étudier, notamment un découvert à l'église Sainte-Foy. La plupart du temps, les artistes ont essayé de reproduire fidèlement les caractéristiques de différents marbres utilisés dans l'architecture antique et issus de provenances diverses. Le chentou, qui est un marbre jaune veiné de rouge, originaire de Tunisie, est très souvent utilisé sur la peinture romaine, y compris à Chartres. D'ailleurs, c'est cette même imitation de chentou qui a été utilisé au XVIIIe siècle pour décorer les piliers du cœur de la cathédrale de Chartres.
Ah oui, ça c'est... je savais pas.
On retrouve aussi à Chartres des imitations de porphyre rouge et vert, notamment sur un décor du cinéma daté de la première moitié du 1er siècle, et sont aussi attestées des imitations de marbre d'origine grecque, comme le Cipollin de Charistos ou le marbre blanc de Skyros. En fait, ce qui est certain, c'est qu'il était beaucoup moins coûteux de réaliser des imitations peintes mais réalistes de marbre que de les acheminer à Chartres depuis les quatre coins de l'Empire.
Oui, évidemment, on imagine bien le coût pour faire venir ces roches. Mais... et pour créer tous ces décors, néanmoins, vous parliez tout à l'heure des couleurs. Comment sont-elles obtenues à cette époque?
La grande majorité des pigments antiques sont d'origine minérale. Ils sont obtenus à partir de terre ou d'argile. Hein, donc c'est le cas des jaunes, des rouges, des bruns et de certains verts. Certains sont d'origine végétale, comme le rouge qui peut être tiré de la garance, donc c'est une plante, ou le noir obtenu par calcination du bois. La pourpre, donc la couleur impériale, était obtenue à partir de murex, c'est-à-dire des coquillages marins. Et enfin, pour le bleu, il s'agit là du premier pigment de synthèse. Il était le résultat de la fusion de sable, de calcite et de cuivre.
Et est-ce que ces couleurs ou décors en trompe-l'œil étaient réservés à certaines pièces de la Domus?
La plupart des décors complexes et très colorés proviennent des péristyles, c'est-à-dire la colonnade qui entoure la cour intérieure des domus, hein, c'est le cas sur l'île Casanova et sur la place des départs, ou de salles de réception. Donc ces riches décors se situent souvent dans les pièces publiques des habitats, afin d'être vus par le plus grand nombre. Mais ce n'est pas toujours le cas.
D'accord. Et vous aviez aussi évoqué en tout début d'émission des décors à fond blanc.
Oui, c'est le second grand type de décor gallo-romain. Ils sont souvent utilisés pour les lieux sombres, comme les couloirs, les caves et les cryptoportiques, ou pour les pièces secondaires, même si la règle n'est pas absolue. Il peut y avoir des décors soignés et de très grande finesse sur des fonds blancs. C'est le cas d'un probable décor de triclinium, donc la salle à manger, découvert sur le site du cinéma. On y voit des représentations architecturales sur lesquelles reposent des figures humaines, dont une nymphe ou une déesse, qui est vue de dos et nue. Donc en fait, la présence de décors à fond blanc ne signifie pas nécessairement un habitat modeste. C'est surtout une mode très présente au 2e et 3e siècle. Et à Chartres, on peut également utiliser le fond blanc pour décorer les plafonds, où il est associé à des motifs géométriques, à réseau, comme dans le secteur de la rue des Grandes Filles.
Merci Raphaël pour ce premier aperçu des fresques chartraines à l'époque romaine. On va clore cette première partie de l'émission sur ces grands décors donc de couleur ou plutôt à fond blanc, qui étaient donc ces décors très caractéristiques. On va voir un peu plus tard après la pause musicale des motifs plus particuliers. On se retrouve tout de suite.
No apology, no apology. Start this from a happy ending. Just another white trash dream track here. Fighting for survival. Trying not to do like his daddy did. Double down the devil at three-card money. No apology, he just knew when to quit. Push your luck, say your prayers. Make believe you don't care. We'll be right back.
Reprenons notre émission Histoire et Mémoire consacrée aujourd'hui aux fresques antiques. Alors avec Raphaël Huchin, qui est spécialiste des peintures romaines au sein de la direction de l'archéologie de la ville de Chartres, nous allons maintenant nous attarder sur d'autres décors muraux. On a vu les grands décors type aplats de couleurs, rouge, noir, vert, jaune ou même à fond blanc. Mais là, après toutes ces illusions architecturales ou trompe-l'œil, vous avez pu observer d'autres motifs sur différents murs peints. Quels sont-ils ?
Alors, les décors de Chartres sont très variés. Ils révèlent de nombreux décors végétaux, des animaux, alors ça peut être des belles sauvages ou légendaires, et surtout des personnages mythologiques ou historiques, dont un empereur.
Alors, vous évoquez, Raphaël, un empereur. Sait-on de qui s'agit-il ? Est-ce courant de trouver des figures impériales sur des fresques, et notamment à Chartres ?
Non, c'est rarissime en Gaule. C'est vraiment une découverte exceptionnelle. Je crois qu'il n'y a qu'un seul exemple en Gaule. On sait qu'il s'agit d'un empereur car il porte une couronne de laurier et un manteau pourpre, qui est la couleur impériale, et ce manteau est orné d'une broderie en or. Donc l'empereur est représenté de profil, à taille humaine, dans un cadre champêtre, en train de réaliser une action, mais qui est malheureusement impossible de définir, parce qu'en fait il y a très peu de fragments conservés pour ce décor.
Très bien.
Donc plusieurs indices permettent d'émettre une hypothèse sur l'identité de cet empereur. Donc on sait que le contexte de découverte de ces fragments indique que le décor a été détruit à la fin du IIIe siècle. Donc il est donc antérieur à cette datation, et date donc probablement de la dynastie des Sévères qui règne entre 193 et 235 après Jésus-Christ. L'empereur est ici représenté imberbe et avec des cheveux courts. Or, on sait que seuls les deux derniers empereurs de la dynastie des Sévères sont généralement représentés ainsi, sans barbe. Il s'agit donc probablement de l'empereur Elagabal, qui règne de 218 à 222, ou de Sévère Alexandre, qui règne de 222 à 235. Et en fait, ces deux empereurs sont d'origine syrienne.
Et pourquoi cet empereur a été peint dans un bâtiment chartrain ?
Il est difficile de répondre avec certitude à cette question. Il ne s'agit pas d'un portrait en majesté destiné à la glorification de l'image impériale. Ce décor semble plutôt raconter une cérémonie dans laquelle intervient personnellement l'empereur. Alors c'est peut-être une scène de sacrifice religieux qui pourrait être liée à une religion orientale. Mais malheureusement, le manque de fragments ne permet pas d'aller plus loin dans l'interprétation. Donc on pense que ce décor a pu être commandité par un notable local proche du pouvoir central, dans un esprit de propagande impériale, et peut-être avec pour ambition de diffuser les courants religieux et culturels d'origine orientale très présents à Rome à cette époque.
Parce qu'il y a d'autres... Est-ce qu'il y aurait d'autres allusions justement à ce culte oriental ou à l'Orient sur les peintures antiques à Chartres ?
Juste, enfin, à proximité de la découverte du décor de l'empereur, en fait, dans la domus qui est de l'autre côté de la rue, sur la place des départs, ont été mis au jour en 1985 des fragments d'une scène de procession comprenant des personnages portant la dalmatique. Alors la dalmatique, c'est un manteau d'origine du Proche-Orient. Et également sur ce décor, nous avons des visages d'hommes au crâne rasé qui ont été interprétés comme des prêtres de la déesse égyptienne Isis.
Donc là, vous avez fait ce rapprochement, puisqu'on sait que les Romains... pouvait absorber aussi, accueillir les cultes d'autres religions.
C'est ce qu'on appelle
religions.
Le syncrétisme religieux.
Et Raphaël, y a-t-il d'autres personnages peints qui ont, comme cet empereur ou ces personnages, retenu votre attention ?
Alors, nous avons recensé plusieurs représentations mythologiques. Donc, rue du Grand Faubourg, nous avons un visage masculin qui est représenté avec les traits marqués et les sourcils hirsutes, de longs poils blancs mêlés à des mèches vertes. Et en fait, ce sont les caractéristiques qui sont généralement attribuées au dieu océan. Sur le site du cinéma, nous avons une petite silhouette humaine incomplète, nue et ailée, avec des jambes potelées. En fait, ça correspond à un amour, le Cupidon romain. Et enfin, place des Départs, quelques fragments d'un décor malheureusement très dégradé, suggère la scène mythologique où le chasseur Actéon observe le bain de Diane avant que celle-ci, par vengeance, le transforme en cerf et qu'il se fasse dévorer par ses chiens.
Donc voilà, des scènes un peu... qui racontent des histoires aussi, et pas simplement des éléments représentatifs. Est-ce qu'il y a d'autres dessins intéressants découverts parmi les fragments que vous étudiez actuellement ?
Alors, les décors chartrains regorgent de représentations animales. Donc, il s'agit souvent d'animaux sauvages communs dans nos contrées, comme des biches, des petits oiseaux ou des cygnes. Mais il y a aussi des animaux plus exotiques, comme des panthères, qui apparaissent sur des décors de la place des Départs et d'Ilo Casanova, ou des dauphins. En fait, il n'y a rien là d'exceptionnel, puisqu'en fait, ce sont des animaux qui sont très courants sur la peinture romaine, on en retrouve partout en Gaule.
D'accord, et la mode fait que ces décors, ces peintures remontent.
Voilà, c'est des schémas classiques qu'on retrouve à Pompéi, en Gaule, partout.
Et qu'en est-il des animaux fantastiques que vous aviez évoqués précédemment ?
Nous avons recensé plusieurs représentations de phénix, hein, qui est donc un oiseau légendaire qui est censé renaître de ses cendres. Et puis, sur l'île de Casanova, nous avons découvert un fragment avec un membre inférieur velu, apparemment humain, mais qui est terminé par un sabot. Il pourrait s'agir de la représentation d'un faune, hein, qui est en fait une créature légendaire mi-homme, mi-bouc de la mythologie romaine.
Voilà. Et c'est sur cette évocation mythologique du faune que nous allons terminer cette émission. Merci Raphaël, en fait, pour cette nouvelle présentation des décors peints des demeures de nos ancêtres gallo-romains. Peut-être que ça vous a donné quelques idées de déco pour chez vous. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à lire l'article consacré aux décors de l'île Casanova dans le magazine Votre Ville de Juin, ou encore Archéo numéro 27, qui présente ces différentes fresques découvertes à Chartres. Et si vous souhaitez réécouter les émissions Histoire et mémoire, sachez que vous pouvez les télécharger sur le site de la radio, radiograndciel.fr. Eh bien, au revoir et très bel été sur la radio. On se retrouve en septembre, j'espère, pour une nouvelle saison d'Histoire et mémoire.